Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je souhaite aussi accueillir finalement ceux qui vont peut-être moins bien, ceux qui ont eu des difficultés pendant la semaine, qui ont eu de la peine. J'espère que vous pourrez trouver pendant ce culte un moment pour vous ressourcer et trouver de quoi repartir pour une nouvelle semaine. Je vous propose d'entrer dans la présence du Seigneur par la prière. Seigneur, on est ici pour t'écouter. On est ici pour recevoir quelque chose, mais aussi pour renouveler notre alliance à toi, pour repartir d'un bon pied. Je te prie que tu puisses être là et que tu puisses guider le message d'aujourd'hui. D'abord, je voulais présenter en fait l'orateur d'aujourd'hui. C'est Michael Mutzner. Il est secrétaire adjoint au réseau évangélique roman et il est aussi membre de l'action biblique à Meynier. Alors, je vais lire dans Matthieu 14, 22 à 33. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage !» leur dit-il. « C'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. »« Viens !» répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. »
Voilà, bonjour. Ça me fait très plaisir de me retrouver parmi vous ce matin. On a fait cette lecture de Matthieu 14 et ça commence par « Aussitôt après ». Alors, après quoi ? Et c'est important de comprendre dans quel contexte s'inscrit l'histoire dont on parle ce matin, Jésus qui marche sur l'eau. Le contexte, c'est que juste avant cet épisode, on a la multiplication des pains, 5 pains, 2 poissons qui nourrissent 5000 personnes, 5000 hommes plus les femmes et les enfants. Et les disciples et la foule qui étaient dans une forte attente messianique et qui attendaient à ce que ce royaume des cieux dont Jésus ne faisait que parler vienne, se sont dit, bah ça y est, le royaume des cieux arrive. Et ils ressentaient quelque chose de céleste. Il y avait, le paradis était là, quelque part. Et il y avait une attente très forte. Ils se disaient, maintenant, les choses vont changer. Et ils pensaient justement peut-être à tout leur malheur et à toutes leurs difficultés politiques, l'occupation romaine, mais aussi peut-être leurs difficultés personnelles. Et ils se disaient, ça y est, on va rentrer dans un temps différent maintenant. Un temps où, enfin, tous ces problèmes-là vont être réglés. Et l'épisode parallèle dans l'évangile de Jean nous dit que les gens voulaient faire de Jésus leur roi à ce moment-là. Ils voulaient le couronner roi. Et c'est pour ça que Jésus les renvoie. Il leur dit maintenant vous rentrez chez vous. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et puis il demande aux disciples d'aller sur ce bateau et sur cette barque. Je sais pas quel était l'état d'esprit des disciples, mais plutôt dans ce même chapitre, avant la multiplication des pains, il y a le martyre de Jean-Baptiste. Alors on passe un petit peu par les montagnes russes là. On passe par des temps d'épreuves difficiles à comprendre. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a dû mourir de cette façon? On enchaîne avec la multiplication des pains. Et là, au milieu, les disciples devaient se dire, mais voilà, le royaume des cieux arrive, mais ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce qui va changer maintenant? Et moi, je crois que Jésus, dans cet épisode, leur donne une leçon. Et il leur dit, voilà, le royaume des cieux est là, mais dans la vie quotidienne, vous allez encore passer par des moments difficiles. Et j'aimerais vous préparer. Et Jésus, qui était le meilleur des enseignants, n'a pas choisi de leur faire un beau petit cours en trois points, mais il a choisi de les faire passer par une situation. Et il y a des choses qu'on n'apprend pas dans la théorie, hein. Il y a des choses qu'on apprend que dans le vécu. C'est ce qui se passe pour les disciples, alors qu'ils avaient le meilleur enseignant qu'on puisse imaginer. Donc acceptons que parfois on passe aussi par des situations difficiles ou des situations par lesquelles Dieu nous apprend quelque chose. Alors ces disciples qui étaient là, qui faisaient la fête avec la foule, se retrouvent tout d'un coup dans cette situation qu'on vient de lire, c'est-à-dire une situation difficile, une situation pénible. C'est la nuit, il y a le vent contraire. Ils sont là, ils rament jusqu'à la quatrième veille de la nuit, ça veut dire entre 3 et 6 heures du matin. Donc ils ont ramé toute la nuit et ils sont sur la mer. Alors la mer, c'est le terme ici, c'est Thalassa. Alors pour nous, ça évoque peut-être des choses positives. On se dit Thalassa, sympa, ouais, vacances, thalassothérapie, des trucs comme ça. Bon, eux, santé. Alors eux, quand ils lisaient, quand un lecteur hébreu juif lisait le mot Thalassa, il pensait lui plutôt danger. C'est un endroit dangereux, la Thalassa. C'est d'une part un endroit c'est la mer, c'est un endroit où on n'a pas pied, c'est un endroit dangereux, c'est un endroit où dans l'histoire d'Israël il s'est passé aussi beaucoup de choses, hein, où dans la Bible on voit tout un nombre d'épisodes où la mer est utilisée comme un lieu de jugement. On peut penser à l'histoire du pharaon d'Égypte, on peut penser à l'histoire de Jonas, on peut penser à différentes histoires, on peut penser aussi à Job qui dit dans la mer, il y a ce Léviathan qui habite, hein, ce monstre marin. Et souvent, la Bible parle de la mer comme de l'endroit où résident les forces de l'opposition et comme un endroit où se passe le jugement. Donc, pour les disciples et pour le lecteur aussi, quand on parle de la mer, on parle d'un endroit de difficulté, d'opposition, un lieu de combat, je dirais, et un lieu dangereux. Donc, tout ça pour dire que c'est aussitôt après, on passe sans transition d'une situation idéale à une situation qui l'est nettement moins. On passe de la fête à la tempête. Et je pense que c'était difficile à comprendre pour les disciples. Parce qu'ils étaient d'une situation vraiment idéale et ils devaient se dire, mais logiquement maintenant, voilà, Jésus a prouvé qui il était. Il a prouvé qu'il était plus qu'un simple homme, qu'il était Dieu. Et maintenant, il va se passer des choses fantastiques. Maintenant, il va prendre le pouvoir, il va renverser l'ordre injuste. Et il se disait, mais c'est pas possible que Dieu veuille autre chose que ça. Ça peut être que la volonté de Dieu qui nous apporte ces bonnes choses maintenant. Et voilà que Jésus fait monter ses disciples dans cette barque, il les force. C'est pas eux qui ont une mauvaise idée, c'est Jésus qui leur a dit, montez sur cette barque maintenant. Il les a forcés au verset 22. Incompréhension. Est-ce que c'est ce Jésus-là qu'on connaît? Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Voilà, moi ce matin, le but que j'aimerais donner à cette prédication, c'est qu'on puisse apprendre aussi cette leçon, qui est la même leçon que les disciples ont dû apprendre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place dans notre vie pour ces temps où on a peut-être l'impression que le royaume n'est pas encore vraiment là et que les choses ne se passent pas telles qu'elles devraient se passer, où la tournure des événements et contraire à tout ce qui nous semblerait être bon et juste. Moi, c'était un vécu dans ma vie, et par sa grâce, Dieu m'a aidé à mettre en place certaines choses qui m'ont énormément aidé, qui ont été mon soutien, qui m'ont permis de combattre le bon combat, de mettre mon énergie au bon endroit. Et c'est pour ça que j'ai à cœur aussi de vous apporter ce message-là ce matin. Tôt ou tard, dans la vie, voilà, la tournure des événements prend une direction qui nous semble tout le contraire de ce qui devrait être bon pour nous, de ce que Dieu devrait nous donner. Et dans ces moments-là, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Et moi, je vous invite ce matin à mettre en place les piliers pour faire face à ces situations-là. Récemment, je lisais une publicité qui disait, attention, sois attentif, c'est deux phrases qui sont fusionnées, donc elle est un petit peu spéciale, cette phrase. Je veux faire ma vie avec toi et moi n'avons plus rien à faire ensemble. Je veux faire ma vie avec toi et moi, nous n'avons plus rien à faire ensemble. » C'était une pub pour une assurance. Et la légende disait « La vie est faite d'imprévus, nos solutions de prévoyance s'y adaptent. » Voilà. Donc prenez une bonne assurance et puis vous êtes bon. Moi j'aimerais qu'on fasse la bonne prévoyance ce matin et puis on va aussi la fonder sur trois piliers, hein, comme un bon système de retraite. La première chose, le premier pilier que vous allez découvrir, c'est que quand on est dans une situation où la tournure est totalement différente de ce qui nous semblerait bon et logique, ce qu'ont vécu les disciples là, et ce qu'on vit parfois dans notre vie aussi, eh bien, vient souvent le doute, et on se dit, on nous a trompés quelque part. Soit Dieu n'est pas vraiment au contrôle, soit il n'est pas vraiment bon. Et je crois que cette tentation de douter de l'existence de Dieu ou de douter de son amour, elle est très forte à chaque fois qu'on est dans ce genre de situation difficile. Et donc moi j'aimerais vous inviter à réfléchir, parce que ce mensonge, c'est le mensonge qui vient à chaque fois, c'est le grand mensonge que Satan utilise depuis la Genèse, de nous dire, mais t'es sûr que tu veux vraiment lui faire confiance? Regarde ce qui t'arrive, regarde la situation dans laquelle il te met, soit il t'a oublié, soit il t'aime pas vraiment. Mais toi, tu comptes pas pour lui, regarde. Arrête de lui faire confiance, regarde la situation dans laquelle il te met. Et ça, c'est le danger numéro un, je dirais, quand on est dans une situation où on ne comprend pas ce qui nous arrive, où on est pris par ces pourquoi qui n'ont pas de réponse. C'est de dire, mais voilà, Dieu ne m'aime pas. Jésus, dans cette histoire, il intervient, et on sent son amour pour ses disciples. Il intervient et dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous. C'est moi, je suis là. Je garde le contrôle. Je vous aime, je prends soin de vous. Je sais ce que je fais, faites-moi confiance. Et ça, c'est l'invitation, c'est le premier pilier que j'aimerais vous inviter à mettre en place aussi. Ayez la certitude de l'amour de Dieu dans votre vie, la certitude qu'il est là, qu'il est présent, même si peut-être à un moment donné vous ne le voyez pas, vous demandez s'il est présent, comme les disciples qui pensaient peut-être être abandonnés. Il est là et il vous aime, il sait ce qu'il fait. Même si vous ne comprenez pas. Ça, c'est le premier pilier à mettre en place. Il faut le mettre en place avant que la tempête elle arrive. Cette certitude que Dieu vous aime quoi qu'il arrive. Moi, c'est le pilier que j'ai aussi mis en place dans ma vie. Il y a des choses que je n'ai pas compris, mais je savais que Dieu m'aimait. Et ça m'a permis de mettre vraiment mon attention au bon endroit et de ne pas me tromper de combat. Je savais que Dieu m'aimait. Ça, je ne le remettais pas en question. Maintenant, je pouvais me concentrer sur le comment vivre cette situation. Si vous mettez ça en place, vous ne tomberez jamais plus bas que cette certitude que Dieu vous aime. Vous ne comprendrez pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'effondrer, mais vous ne tomberez jamais plus bas que ça. Dieu m'aime. Le Dieu créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant m'aime. Il m'aime vraiment. Alors, est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? Est-ce que tu es prêt à croire qu'il t'aime et même si le pire devait arriver, on n'est jamais prêt pour le pire, on ne peut pas être prêt pour le pire, mais si le pire devait arriver, est-ce que tu serais d'accord de lui dire « je te fais quand même confiance ». Voilà. Je ne sais pas ce que c'est le pire qui puisse arriver dans votre vie. Pour chacun, c'est quelque chose de différent. Mais s'il devait arriver, est-ce que vous lui ferez encore confiance? Il y a un auteur qui a dit « j'ai touché le fond et je peux vous dire qu'il est solide ». Mettons ce fond solide en place. Alors peut-être que vous vous dites, donc ça c'est le premier pilier, hein, la confiance dans la bonté, dans l'amour de Dieu. Peut-être vous dites, moi je veux bien mettre ça en place, mais je n'ai pas la force. Si le pire devait arriver, je n'aurais pas la force pour faire face. Effectivement, on est totalement dépassé quand on est dans ce genre de situation. Alors, je trouve intéressant de voir ce qu'a vécu Pierre dans l'épisode qu'on a lu. Pierre qui a une attitude un petit peu culottée, qui dit à Jésus, mais Jésus, si vraiment c'est toi, montre-le-moi, je veux marcher sur l'eau aussi. Et Jésus, étonnamment, qui lui dit « Ouais, ok, tu peux venir. » Il aurait pu lui dire « Attends, mon ami, attends encore un petit peu, là. Il faut que tu fasses quelques années de disciples avant de pouvoir marcher sur l'eau. » Ça, c'est pour les grands maîtres, ça. C'est pas pour les petits disciples. Il lui dit « Viens. Pourquoi » Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Par quelle puissance est-ce que Pierre pouvait marcher sur l'eau? Pour comprendre un petit peu la relation qu'il y a entre Pierre et Jésus, il faut comprendre la relation qu'il y avait dans le contexte juif, entre un rabbi et son disciple. En fait, Il faut comprendre même, j'irais, le système éducatif de l'époque. À l'époque, les garçons allaient à l'école de 6 à 10 ans, et c'était plus ou moins pour tout le monde, et là, ils apprenaient par cœur le Pentateuch. Après ça, la plupart rentraient chez eux, travaillaient dans le business familial, ils faisaient le travail que faisait leur père, et le père leur transmettait leur savoir-faire. Mais certains qui étaient plus doués que d'autres continuaient. Et eux, ils apprenaient encore le reste de l'Ancien Testament. Ils apprenaient beaucoup par cœur. Et après ça, les meilleurs des meilleurs essayaient de se faire embaucher par un rabbi. Ça, c'était le top. Alors le rabbi les prenait à son école et il allait tester ces jeunes pour voir s'ils auraient la capacité de comprendre son enseignement et de le retransmettre. Il ne voulait pas prendre n'importe qui. Il voulait des jeunes qui aient les capacités, on disait, de porter le joug du rabbi. On parlait d'un joug. Il fallait qu'ils aient la carrure nécessaire. Et donc, il les testait. S'ils avaient la carrure nécessaire, il disait, toi, tu peux me suivre, toi, suis-moi. C'était un privilège. Le choix que Jésus fait de ses disciples est étonnant, parce qu'il n'a pas pris les meilleurs des meilleurs. Il a pris ceux qui étaient déjà retournés dans le business parental. Il n'a pas pris ceux qui avaient les meilleures capacités intellectuelles et tout ça. Mais il les a choisis parce qu'il savait qu'ils seraient portés par la puissance du Christ et que c'est par la puissance de Dieu qui agirait en eux qu'ils seraient capables de faire leur ministère. Il savait que ce ne serait pas par les capacités intrinsèques, les capacités propres à ses disciples. Il savait que c'était la puissance de Dieu qui habiterait en eux, qui leur permettrait de comprendre et puis de retransmettre ce qu'ils entendraient de Jésus à travers le Saint-Esprit. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que la puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est ça, cette puissance qui agit dans ses disciples. Elle rendait manifeste qu'ils étaient habités de Dieu. C'était pas grâce à eux que ces 12 hommes ont réussi ce qu'ils ont réussi. Alors voilà, Pierre, quand il voit son maître marcher sur l'eau, il fait comme ferait un bon disciple. Il dit, mais moi, je veux apprendre à faire ce que fait mon maître. Je veux faire la même chose. C'est pour ça qu'il dit, mais alors si vraiment c'est toi, apprends-moi comment tu fais, je vais pouvoir faire la même chose. Et Jésus lui dit, d'accord. Mais quand Pierre commence à regarder autour de lui, il réalise justement que ses forces à lui ne suffisent pas. Il réalise que ses forces ne sont pas suffisantes et il se sent dépassé. Parce que Jésus marche sur l'eau, mais la tempête, il ne l'a pas encore apaisée. Hein. Les vagues sont encore là. Et Pierre marche sur l'eau, mais il faut vous imaginer que ça bougeait pas mal. Et Pierre commence à enfoncer, il commence à s'enfoncer. Et là, il appelle Jésus au secours. Pierre a oublié qu'il était porté par Jésus. Il pensait tout d'un coup que c'était peut-être ses propres forces qu'il portait, puis il se rend compte qu'elles ne suffisent pas. Il s'enfonce, il est dépassé par l'environnement qui a autour de lui, par ses éléments déchaînés. Il s'enfonce. Et ça, c'est la même chose pour nous, les amis, ici. Par notre puissance, par nos forces, on est effectivement dépassé par un certain nombre de situations dans lesquelles on se trouve. Et ce constat-là, il est juste. C'est le premier constat même qu'il y a à faire. C'est trop, je suis dépassé, il faut que je lâche prise. Il faut lâcher contrôle. Et il faut s'en remettre à la puissance de Dieu, que ce soit elle qui nous porte, la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas nous porter. Il y a des gens qui portent pendant des années, ils portent tout sur leurs épaules. Déposez ça devant Jésus, déposez-lui tout ça et laissez-vous porter par lui. Laissez tomber le contrôle et acceptez de dire simplement, voilà, un jour après l'autre, je me laisse conduire par toi. Quand on est dans des situations extrêmement difficiles, le matin, on demande la force pour tenir jusqu'au soir. On ne pense pas à une semaine, à deux semaines, à un mois. Et c'est juste, parfois, il y a des moments où il faut simplement dire, voilà, Seigneur, prends soin de cette journée, donne-moi la force jusqu'à ce soir. Que ce soit lui qui nous donne la force. Je crois que la foi produit deux types de miracles quand on est dans la difficulté. Elle produit d'une part la miracle quand on est dans le miracle dans la tempête. Le miracle, ça peut être que Jésus nous délivre de la tempête. Mais le miracle, parfois, c'est aussi de tenir bon dans la tempête. Quand on lit Hébreux 11, on voit qu'il y a deux types d'héros de la foi. Enfin, ce sont tous des héros de la foi, mais ils ont vécu deux types de délivrance. Certains vraiment ont été délivrés de ce qu'ils vivaient, de terrible, de la persécution. Et d'autres ont tenu bon jusqu'au bout et ils ont accepté le martyre. Deux types de miracles, la même foi. On peut demander la délivrance de la situation difficile, c'est juste. Mais on peut aussi demander d'avoir la force de tenir bon par sa puissance. Donc ça, c'était le deuxième pilier, accepter de se laisser porter par sa puissance. Nous, on n'a pas les forces nécessaires, c'est juste. J'aimerais poursuivre. Pourquoi est-ce que Jésus a marché sur l'eau? Pourquoi Jésus a-t-il marché sur l'eau? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce miracle? Jésus n'a pas fait ce miracle simplement pour faire le show. C'est pas son genre. C'est pas son genre. Il a pas fait juste ça pour dire, moi, j'ai marché sur l'eau. Donc suivez-moi. Je pense qu'il a marché sur l'eau parce que il y avait une signification à ce miracle. Et je vous ai dit tout à l'heure la signification de la mer aussi, de la thalassa. Il y a plusieurs indices dans ce texte. On voit Jésus qui est incompris. On le voit seul au début de ce passage. Il monte sur une montagne où il est seul. Il prie à l'écart, incompris. Quand il redescend, les disciples ne le reconnaissent pas. Peut-être ça vous rappelle quelque chose tout ça. Mais lui, il vient victorieux contre les éléments déchaînés. Voilà, moi je crois qu'on a affaire ici à une annonce de la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Il vient victorieux. Le jour va se lever quelques instants plus tard dans la suite du texte. Donc la nuit est passée, le vent, la tempête est apaisée. Je peux vous lire ça, hein. Jésus monta dans la barque et le vent tomba. Il remporte la victoire contre le vent. Et il a remporté la victoire contre la mer puisqu'il marche dessus. Ma question c'est à quel prix ? J'aimerais vous lire un extrait dans l'Ancien Testament, et je pense pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de lire la Bible, vous reconnaîtrez l'histoire. L'équipage dit à cet homme, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Et Jonas dira un petit peu plus tard, « Tu m'as jeté dans un bas-fond au fond des mers, et les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton temple. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. » Ce Jonas est une préfiguration de Christ, Christ lui-même le dit, quelques chapitres plus tôt dans Matthieu, il dit, mais il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas aux pharisiens qui demandaient un signe miraculeux. Il a dit, comme lui, qui a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il va m'arriver la même chose. Chers amis, pour que nous ayons cette victoire, pour que nous marchions sur l'eau comme Pierre, pour que la nuit laisse place au jour, il a fallu que Christ, lui, coule. Il a fallu que lui subisse la tempête. Il a subi la pire tempête de toutes. Il a subi la plus grande des injustices, la chose la plus illogique qui soit. Il nous arrive des choses illogiques, mais lui, c'est la chose la plus injuste, la plus illogique, la moins compréhensible qui soit qui lui est arrivée. Il a subi ça pour nous. Il a coulé. C'est pour ça qu'il revient et qu'il marche sur l'eau. Parce que dans un premier temps, il a coulé. Je parle d'une figure, évidemment. Je ne crois pas que Christ a coulé dans l'eau littéralement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Christ est mort sur la croix. Et qu'il a pris nos fautes à ce moment-là, et qu'il a pris ça à notre place. Donc il a subi la colère, il a subi ce jugement. Hein. On paraît que l'eau, ça représente le jugement, cet endroit d'opposition. Il a pris tout ça sur lui pour que nous ayons la victoire. Et ça, c'est super important de le comprendre et de s'en souvenir. C'est le troisième pilier à mettre en place. Christ a remporté la victoire pour nous, et cette victoire, il nous y associe. De la même façon que Pierre marche sur l'eau, nous aussi, on participe à cette victoire. Cette victoire, maintenant, on l'a en Christ. Donc, quand on est dans la tempête, on a l'impression que cette tempête, elle va durer pour toujours et on ne voit pas le bout. Mais il faut qu'on se souvienne que Christ est passé par la tempête avant nous, qu'il a subi et qu'il a remporté la victoire. Et que cette victoire, c'est cette victoire qui nous attend, nous aussi. Et cette victoire, elle ouvre sur nous une espérance, celle de la vie éternelle. Un jour, quand on lit Apocalypse 21, on est frappé par certains détails. Et certains des détails disent par exemple qu'il n'y aura plus de mer dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Plus de mer. Hein? Il n'y aura plus de nuit. Il fera jour tout le temps. Alors comment interpréter ces textes? Ça, je vous en laisse la liberté, mais en tout cas en lien avec ce passage qu'on a lu, je crois que ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ces lieux d'opposition, ces lieux de souffrance, ces lieux de difficulté ne seront plus. La victoire a été remportée. Et cette espérance, c'est une espérance qui nous porte aussi dans les temps d'épreuve. Il ne faut jamais oublier que Christ a remporté la victoire et que ce qui nous attend, c'est la vie éternelle dans sa présence. Une vie où on sera délivré de toutes ces choses-là. On a besoin de regarder vers cette espérance-là. On vit aujourd'hui dans une société où on est énormément dans le présent et où les gens en particulier qui n'ont pas de certitude de la vie après la mort, ils vivent avec une énorme angoisse quand la tournure des événements est mauvaise, parce qu'ils vivent pour satisfaire leur désir et leur besoin dans le présent. Et quand ce présent-là tourne mal, ils n'ont pas d'espérance sur laquelle s'appuyer. Et là, je crois qu'on a un message d'espérance à leur apporter aussi. En tout cas, mettez-le en place dans votre vie. C'est mon encouragement ce matin. Voilà, ces trois piliers. La certitude de l'amour de Dieu. C'est simple, mais je vous dis, c'est une telle force quand arrive la tempête. Deuxièmement, vous appuyez non pas sur vos forces, mais vraiment sur sa puissance. Et troisièmement, avoir la certitude de la victoire de Christ qu'il a remportée pour nous et qui nous ouvre aussi cette espérance dans la vie éternelle. Alors voilà, mon souhait, c'est que si vous passez par la tempête maintenant, ou si un jour elle arrive, bien qu'à la fin, vous puissiez dire cette même phrase qu'ont dit les disciples, « Tu es vraiment le Fils de Dieu ».
À nous qui avons peut-être passé par la tempête, qui sommes peut-être aujourd'hui dans la tempête, ou qui passerons un jour dans la tempête, je vous propose de reprendre le cri de foi des disciples. Celui-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Je crois vraiment qu'il est le Fils de Dieu, au numéro 424. Je crois en Jésus. Poursuivre dans le vécu de ce que Michaël nous a proposé de ce matin, je vais vous lire le psaume 18. Celui qui l'a écrit a passé par une tempête et il raconte ce qui lui est arrivé. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. La mort m'avait déjà attaché. Elle me faisait peur comme un fleuve en colère. La mort m'avait entouré de ses chaînes. Ses pièges étaient tendus sous mes pieds. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur, j'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé jusqu'à ses oreilles. Alors Dieu s'est mis en colère. Dans les cieux, le Seigneur a fait tonner. Le Très-Haut a donné de la voix.
Il lançait ses flèches et mes ennemis se dispersaient. Il jetait ses éclairs et tous s'enfuyaient. D'en haut, il m'envoie prendre. Il me retire des grandes eaux. Il me délivre de mon ennemi puissant, de mes adversaires plus forts que moi. Le Seigneur est venu à mon aide. Il m'a dégagé, donné du large. Il m'a délivré parce qu'il m'aime.